En ce premier jour donc de l'année civile, nous pourrions être peut-être plus familiers à célébrer cette journée comme étant celle de la prière mondiale pour la paix. Et nous savons combien notre monde aujourd'hui a besoin de cette prière. Et plus encore, nous sommes à l'heure de l'échange des vœux et des souhaits pour nos familles, pour nos amis, pour tous ceux qui nous sont chers, sans oublier ceux qui nous sont peut-être loin ou qui ne sont pas familiers de notre environnement. Mais une question que nous pourrions nous poser vis-à-vis de cet échange des vœux, est-ce que nous pensons aussi à les bénir ? Alors souhaiter en Christ, par les mains de Marie, les bienfaits spirituels dont ils auront besoin. C'est vrai que nous sommes peut-être plus enclins à nous souhaiter le bonheur, à nous souhaiter la paix, la santé, et tout ceci est bien sûr légitime. Mais prenons-nous le temps de bénir ceux qui nous sont chers. Et sachant qu'une femme, Marie de Nazareth, a reçu en elle-même la plénitude de cette bénédiction, et en ce jour où nous la célébrons et l'acclamons solennellement pour sa maternité divine. Le souhait contenu dans cette bénédiction s'est réalisé pleinement en une femme, Marie. En tant que destinée à devenir la mère de Dieu, et s'est donc réalisée en elle l'incarnation du Verbe, du Fils qui se fait homme dans notre humanité. Marie est donc la mère de Dieu, et c'est bien le titre principal et essentiel que nous pouvons attribuer à la Vierge Marie. Il s'agit d'une qualité, d'un rôle que le peuple chrétien, dans la foi, dans sa propre dévotion, a perçu depuis toujours. Et rappelons-nous ce grand moment de l'histoire de l'Église antique, que l'on appelle le Concile d'Éphèse au Ve siècle, au cours duquel fut définie avec autorité la maternité divine de la Vierge. Et la vérité sur cette maternité divine de Marie trouva écho dans la ville de Rome, où peu de temps après sera construite la première basilique qui sera dédiée à la Vierge Marie. Celles et ceux qui connaissent la ville éternelle, cela correspond à la basilique Sainte-Marie Majeure. Et c'est dans cette basilique où on vénère encore aujourd'hui l'image de la Mère de Dieu que l'on nomme la Théotokos, celle qui porta en son sein eh bien, le Fils éternel du Père. Et on raconte que pendant ce concile, les habitants d'Éphèse, cette ville qui se trouve aujourd'hui en Turquie, se rassemblèrent devant la porte de la basilique où se réunissaient les évêques, et c'est la foule qui s'est mise à crier « Marie, Mère de Dieu ». Ce sont d'abord les fidèles, c'est-à-dire chacun de nous, qui avons demandé de définir officiellement ce titre de la Vierge Marie, parce que nous reconnaissons en elle sa maternité divine. Et le saint pape Jean-Paul II disait surtout de Marie qu'elle est depuis toujours présente dans le cœur, dans nos dévotions, et surtout sur le chemin de la foi de l'ensemble du peuple chrétien. Et le saint pape Jean-Paul II nous dit « L'Église marche au cours du temps et sur ce chemin, elle progresse en suivant l'itinéraire accompli par la Vierge Marie. » Et le dernier concile Vatican II, dans sa constitution dogmatique, le décrit si bien « Notre itinéraire de foi est le même que celui de Marie. C'est pourquoi nous la sentons particulièrement proche de nous. » Concernant la foi qui est le pivot de la vie chrétienne, la Mère de Dieu a partagé notre condition. Elle a dû marcher sur les mêmes routes que nous parcourons. Et nous savons que ces routes sont parfois difficiles pour nous. Mais en tout cas, elle a su avancer dans le pèlerinage de la foi. Et notre chemin de foi pour nous, aujourd'hui, est liée de manière indissoluble à la Vierge Marie depuis que Jésus, mourant sur la croix, nous l'a donnée pour mère en nous disant « Voici ta mère ». Ce sont les paroles de saint Jean au chapitre 19. et ces paroles « Voici ta mère » ont la valeur d'un testament et donnent au monde une mère. Et depuis cet instant, la mère de Dieu devient aussi notre mère. Elle n'est pas simplement la mère de Saint Jean qui l'a recueillie, elle devient la mère de l'Église, et comme nous sommes membres de cette Église, Marie devient aussi notre mère. Et au moment où la foi des disciples était fissurée par tant de difficultés et d'incertitudes, Jésus les confiait à celle qui avait été la première à croire et en qui la foi n'a jamais failli. Et la femme devient notre mère, également au moment où elle perd son divin fils. Son cœur blessé se dilate pour faire place à tous les hommes, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, mais tous, elle les aime d'un même cœur, comme elle aima absolument son fils Jésus. Et c'est cette femme aussi qui, aux noces de Cana en Galilée, avait coopéré par la foi à la manifestation des merveilles de Dieu dans le monde, et au calvaire tient allumée la flamme de la foi en la résurrection de son fils. Ainsi, cette communication de la foi, eh bien, c'est à nous qu'elle l'adresse aujourd'hui. Désormais, Marie devient source de notre espérance et la source de notre vraie joie. La mère du Rédempteur nous précède et sans cesse nous confirme dans la foi, dans la vocation et dans la mission qui nous est propre. Et par son exemple d'humilité et de disponibilité à la volonté de Dieu, Marie nous aide à traduire notre foi en annonce joyeuse et sans frontières de l'Évangile. Ainsi, pour conclure, notre mission sera féconde parce que modelée sur la maternité de Marie. Alors, en cette nouvelle année civile qui commence, confions-lui notre itinéraire de foi, tous les désirs que nous portons dans notre cœur, le souci que nous avons de notre vie spirituelle, pour nous-mêmes, mais aussi pour nos familles, toutes nos nécessités, ainsi que les besoins du monde entier. N'ayons pas peur de l'invoquer tous les jours. Et à la suite du pape François, peut-être pouvons-nous même l'invoquer à travers la méditation, qu'elle soit quotidienne ou hebdomadaire, de la prière du rosaire. Alors prenons un temps de silence et demandons à la Vierge Marie, la mère de notre Rédempteur, qu'elle puisse veiller sur chacun de nous et sur tous ceux qui nous sont proches dans la foi. Amen.